Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton, Corentin Mansois, Maïder Gérard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, c'est Majid Zerouki qui nous accompagne. Bonjour Majid.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler ce matin de l'Algérie. Depuis un mois tout juste, les manifestations s'enchaînent en Algérie contre le pouvoir en place. À leur origine, on s'en souvient, l'annonce de l'intention du président Bouteflika de se représenter pour un cinquième mandat. Mais sous la pression de la rue, il a dû y renoncer, annoncer le report des élections, la mise en place d'un nouveau gouvernement chargé d'organiser un processus de transition. Mais voilà, les Algériennes, les Algériens n'y croient pas. Et voilà une énième manœuvre du pouvoir pour se maintenir en place, pour maintenir le statu quo. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Que propose le pouvoir ? Quelles sont les exigences des manifestants ? Peut-on croire en une vraie transition politique ? Et à quoi pourrait-elle conduire ? Depuis quelques jours, on a eu plusieurs signes de désolidarisation de la part du parti, le FLN, mais aussi à l'intérieur de l'armée. Alors le pouvoir serait-il en train de se fissurer ? Voilà la question qu'on va se poser. Pour tenter d'y répondre, Malika Rahal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne chargée de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. À vos côtés, Slimane Zeguidour, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, écrivain, journaliste et puis éditorialiste à TV5 Monde. Avant d'ouvrir notre page consacrée à l'Algérie, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit aujourd'hui nous revient d'Éthiopie, c'est Vincent Hugeux. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Grand reporter pour l'Express. On vous reçoit donc pour un papier consacré à l'Éthiopie. Vous êtes rendu en Éthiopie au moment même où Emmanuel Macron s'y rendait lui-même en visite officielle dans le cadre d'une récente tournée est-africaine. Il y a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qu'il a accueilli à Addis Abeba. Vous commencez votre article en soulignant les ressemblances entre les deux responsables politiques.
Oui, un peu ironiquement, je souligne que 16 mois les séparent, mais que beaucoup de traits de caractère les rapprochent. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par un des conseillers du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, c'est-à-dire que ce sont grosso modo deux libéraux transgressifs, pour faire court, qui veulent bousculer un ordre qu'ils estiment archaïque, voire anachronique, et qui parfois font preuve d'un peu de précipitation et ont peut-être tendance à sous-estimer les adhérences et les résistances historiques, culturelles et sociales.
Vous dites que ce sont deux réformistes réfractaires aux sirènes nationalistes.
Oui, je cite là, effectivement, le conseiller en question, qui m'a d'ailleurs invité à ne le citer qu'anonymement.
On sait à peu près ce qu'ils se sont dit. L'un et l'autre.
Non, parce que
je pense au moins
que
le propos
était relativement convenu. C'est-à-dire que déjà, Emmanuel Macron avait reçu Abiy Ahmed à l'Élysée en octobre dernier. Il avait d'ailleurs salué son réformisme et son courage politique, car de fait, trêve d'ironie, Abiy Ahmed prend des risques par rapport à l'ossature institutionnelle et à l'histoire politique de ce grand pays de 105 millions d'âmes et qui en comptera 200 au mi-temps de ce siècle. Mais les identités de vue sont quasiment acquises. C'est vrai que la France, et ça c'était le mérite de cette tournée est-africaine, s'efforce de ne pas rester otage de son défunt précaré francophone, même s'il y a pas mal de contradictions par ailleurs dans les postures élyséennes. Mais dès lors que l'on va vers l'Éthiopie, salué pour de bonnes et de mauvaises raisons pour sa croissance très soutenue depuis une quinzaine d'années.
On va en parler.
Le Kenya et Djibouti, c'est une autre histoire. Eh bien oui, on marque cette volonté de rééquilibrer notre politique africaine, pourvu qu'elle existât, et aussi de prendre en considération le poids à la fois économique et démographique de ce géant. Colosse au pied d'argile, certes, mais de ce géant est-africain.
Vincent Hugeux, on va parler de l'arrivée, des conditions d'arrivée de ce nouveau Premier ministre. Mais d'abord, il se trouve que depuis son arrivée, le Parlement a fait voter une loi d'amnistie, une loi importante. Il y a 13 000 détenus qui ont été libérés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin des purges en Éthiopie ?
Je pense que ce serait un peu prématuré d'en tirer cette conclusion. Abiy Ahmed évolue quand même dans un contexte assez orageux, mais il a voulu, par cette décision et par d'autres, par exemple l'invitation au retour de chefs rebelles en exil, par exemple la légalisation d'organisations régionalistes ou irrédentistes qui étaient jusque-là classé sur la liste noire des mouvances terroristes. Il veut marquer une rupture avec un autoritarisme de celui dont il invoque les mannes pour mieux s'en libérer, à savoir le fameux Meles Zenawi, qui est l'artisan de cette marche forcée vers la croissance, mais sur un mode autocratique et socialisant de l'Éthiopie d'hier.
Alors, depuis la fin du conflit, Vincent Hugeux, l'Éthiopie est dans un régime de crise politique quasi permanent, et peut-être en particulier justement depuis la mort en 2012 de ce premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Il décède en 2012, il est ensuite remplacé par un autre homme, mais qui est en fait assez rapidement contraint à la démission faute de légitimité. On est là en février 2018, et donc débarque ce jeune premier ministre Abiy Ahmed. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur son profil, son parcours politique et ce qui le conduit au pouvoir? C'est loin d'être une évidence.
Bien sûr. D'abord, ce n'est pas un perdreau de l'année. C'est quelqu'un qui a une formation d'ingénieur en informatique et notamment un expert de cybersécurité. Et pour vous citer un exemple, il est l'un des cofondateurs de ce qu'on appelle là-bas l'INSA, c'est-à-dire l'agence de sécurité des réseaux d'information. Donc il a été appelé à être le serviteur zélé d'un régime autocratique, soyons clairs. Pour autant, ne minimisons pas sa métamorphose. Il est persuadé que les critères de décision de ses prédécesseurs ne conviennent pas à l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et il se glisse, c'est un quasi inconnu, y compris en Éthiopie dans de nombreuses années, dans l'appareil du pouvoir via sa région. Il est Oromo, c'est-à-dire l'ethnie la plus fournie en Éthiopie, avant les Amara, et également au sein du parti. Car depuis l'accession au pouvoir de Zenawi, et grosso modo depuis la chute de celui qu'on appelait le Négus Rouge, Mengistu Haïlé Mariam, stalinien tropicalisé, une coalition de quatre partis, d'ailleurs tous identitaires, tous adossés à une communauté ethnique donnée, régente l'Éthiopie. Le paradoxe, c'est que ceux qui ont dominé cette coalition et qui ont en fait confisqué le levier du pouvoir depuis près de 20 ans sont les élites tigréennes. Or, les Tigréens représentent 6% de la population. Et on est sur un phénomène quasiment titiste. J'entends par là, pour avoir couvert le démembrement de l'ex-Yougoslavie, que longtemps, toutes ces pulsions irrédentistes et identitaires ont été en fait étouffées sous la chape de plomb d'un régime autocratique. Et le jour où cette chape se fendille, voire se fracasse, eh bien remontent des revendications, des rancœurs, des amertumes, un revanchisme parfois.
À tel point d'ailleurs que les Oromo et les Amara s'étaient retrouvés en bloc dans des contestations sociales pendant des années, ce qui était quasiment inédit.
Y compris pour déboulonner ces fameuses élites érythréennes. Mais tout ça est adossé à une formule institutionnelle qui m'apparaît relativement baroque, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ethno-fédéralisme. C'est-à-dire que vous avez, c'est un pays fédéral, hein, comme son nom l'indique, c'est la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Donc 9 États, 9 régions, toutes ayant été dessinées selon des critères communautaires, identitaires et ethniques. Alors, quand vous avez, encore une fois, un chef d'orchestre qui, à la baguette, voire à la cravache, conduit tout cela, on peut éventuellement étouffer les particularismes. Mais quand on ouvre les portes, et c'est le grand paradoxe d'Abiy Ahmed, il ouvre les prisons, il les vide en partie seulement, il fait donc revenir des exilés, etc., etc. Mais de ce fait, presque mécaniquement, des revendications qui avaient été tues dans le passé, sous la férule d'un régime autocratique, sont en train d'affleurer à la surface.
Mais quel est son projet? Est-ce qu'il a l'intention d'aller jusqu'à remettre en question justement cet ethno-fédéralisme?
Alors, ses conseillers, Meza Voce, vous disent par exemple qu'ils souhaiteraient revisiter la Constitution. Non pas la remodeler complètement, ce serait sans doute très très risqué. Il veut par ailleurs aller vers le libéralisme économique. Et il veut, et il l'a dit cela, privatiser, alors graduellement, certains monstres de l'économie éthiopienne. Il y a par exemple un conglomérat militaro-industriel qui s'appelle, il n'y a pas de jeu de mots, le METEC, qui était connu pour à la fois son sens de la prévarication et de l'incompétence, mais qui avait une emprise invraisemblable sur des domaines de l'économie qui allaient très au-delà de la simple industrie militaire. C'est un peu, si vous voulez, les Pasdaran, les gardiens de la révolution en Iran. Mais bon. Eh bien, il a décidé, par exemple, pour ce qui est de la téléphonie, il y a une grande société nationale qui s'appelle Ethiocom, qui est très connue. Eh bien, il veut la privatiser.
S'il veut la privatiser, ça vient pas de nulle part. C'est parce qu'aussi le modèle économique qui avait été mis en place par Meles Zenawi est en train sinon s'effondrer, au moins en tout cas peut-être il est à... je crois que c'est à bout de souffle que vous dites dans,
dans votre reportage.
Pourquoi modèle... il est à bout de souffle? Qu'est-ce qui marche plus?
C'est un modèle de croissance étatique qui est fondé sur l'investissement public, avec ce que ça peut comporter parfois de brutal et de peu sophistiqué. Et alors, vous savez, le problème, c'est que les institutions internationales, les partenaires de l'Éthiopie, se prosternent devant un taux de croissance à deux chiffres depuis 15 ans. Mais bon, on sait quand même bien qu'il en va de la croissance comme de la culture ou de l'intelligence. La question n'est pas de savoir si on en est pourvu, mais l'usage qu'on en fait. Et précisément, l'usage qu'en fait l'Éthiopie est plus que discutable, puisque ça reste malgré tout, même si on a arraché ce pays à la queue de peloton en termes de revenus par tête, ça reste un pays pauvre, ça reste un pays rural. 80% des Éthiopiens vivent dans des zones d'agriculture plus ou moins extensives. Donc, je veux dire, il y a cette volonté, oui, de dépoussiérer les pratiques économiques, de dépoussiérer les institutions. Mais la ligne de crête, comme me le disait un diplomate en poste à Addis Abeba, elle est à la fois étroite et escarpée.
Oui, parce qu'évidemment, les investissements se sont considérablement ralentis, et y compris d'ailleurs ceux qui venaient du côté de la Chine. Même les Chinois se sont dit, bon, il y a beaucoup d'instabilité politique, on va peut-être ralentir les investissements. Mais à qui pourrait profiter ce libéralisme économique d'Abiy Ahmed? Est-ce qu'on peut espérer qu'effectivement, il y ait une meilleure répartition des richesses? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que certains profitent davantage que d'autres?
Alors, le pari de Abiy Ahmed et de son équipe, c'est de faire en sorte qu'un investissement privé à la fois local, éthiopien, et étranger, diversifié, vienne prendre le relais de ce volontarisme budgétaire qui a atteint ses limites. Ça veut dire que, m'a-t-on expliqué dans son entourage, il n'est pas, comme son prédécesseur, fasciné par le modèle chinois. Et que, d'une certaine manière, il aimerait desserrer l'emprise massive de la Chine, dont on sait les capacités de crédit limitées, alors que précisément la balance de paiement de l'Éthiopie est catastrophique, que la pénurie de devises est cruelle, aiguë, et donc ça ouvre un espace pour des investisseurs de taille moyenne, qui pourraient être italiens, même si le poids de l'histoire est là, français, allemands, ou que sais-je encore.
Vous avez rencontré, Vincent Hugeux, une femme d'affaires, Bethlehem Tilaoun Alemou, qui travaille dans la confection de chaussures, qui a créé sa marque Solé Rebelle, je crois. Mm-hmm. Racontez-nous un peu qui elle est, son parcours, sa formidable réussite, et là aussi ce que ça nous révèle peut-être des évolutions du modèle économique éthiopien finalement.
Bon, c'est une success story quasiment romanesque. C'est une jeune femme d'une famille modeste d'un quartier pauvre d'Addis Abeba qui lance un jour avec 5 amis, même pas des employés, elle entretient toujours d'ailleurs avec ses salariés une relation plutôt affective, des chaussures à partir de pneus usagés. Et puis, voilà, il y a aujourd'hui 10 boutiques dans le monde, y compris en Amérique du Nord, en Europe, etc. Et ensuite, elle lance toute une gamme de cafés haut de gamme, justement, qui s'appelle Garden of Coffee, etc. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, elle incarne une arrivée au levier de pouvoir de femmes, que Abiy Ahmed, d'ailleurs, accompagne et amplifie.
Oui, il a un gouvernement paritaire.
Un gouvernement strictement paritaire. C'est le seul pays d'Afrique, avec le Rwanda, à avoir 10 ministres femmes, 10 ministres... Et attention, pas nécessairement à la famille ou à l'enfance. Hein, des ministères réputés régaliens, comme la Défense ou... ce qui correspond en vrai chez nous au ministère de l'Intérieur.
Et par ailleurs, de la Commission électorale nationale, ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien, d'autant plus que ce poste a été confié à une opposante qui est rentrée d'exil 3 semaines plus tôt. Idem pour la Cour suprême, aujourd'hui présidée par une femme. Idem pour la présidence. Alors, fonction éminemment symbolique et protocolaire en Éthiopie, mais c'est la très francophile Saleh Worksaydé, qui était d'ailleurs ambassadrice en France, formée à Montpellier notamment, qui est aujourd'hui présidente. Ça n'est pas totalement anodin. Et cette success story que j'évoque, elle illustre autre chose, c'est la possibilité effectivement de se glisser dans un système étatique assez étouffant, mais à condition quand même de disposer de relais dans l'appareil d'État. On n'est pas arrivé au stade où, partant de nulle part et sans aucun appui, on pourrait faire son trou.
Alors il faut parler, Vincent Hugeux, maintenant de la question de la relation avec l'Érythrée, parce que s'il y a instabilité politique depuis si longtemps, c'est aussi parce qu'il y a cette difficulté dans la relation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Plus de 20 ans après l'éclatement du conflit qui a fait entre 80 000 et 100 000 morts, et malgré les accords d'Alger, les deux voisins cohabitaient dans une forme de conflit latent permanent. Et puis finalement, il y a un peu moins d'un an, c'était en juin 2018, l'Érythrée et l'Éthiopie avaient marqué une étape absolument décisive dans leur rapprochement, puisqu'il y avait une visite historique des autorités érythréennes en Éthiopie. Rappelez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au fond, les deux pays sont en tout cas en passe de solder le conflit, de faire la paix. Est-ce qu'on est là au début de la normalisation de leurs relations?
C'est la facette diplomatique de la réforme à marche forcée et du volontarisme moderniste de Abiy Ahmed. Il fait un constat très simple. Que perd l'Éthiopie dans ce conflit inepte au lendemain de la chute de Mengistu? Son accès à la mer. Et donc ça devient un pays puissant, avec une croissance soutenue, mais terriblement enclavé, qui sort par Djibouti avec une route hors d'âge et un port qui est lui-même totalement surchargé, submergé de conteneurs. Bon. Donc, stratégiquement, il se dit, on va quand même pas pour un tas de cailloux, je me fais là l'interprète un peu audacieux de sa pensée, mais et un village qui était devenu pour beaucoup d'Éthiopiens le Verdun local, on va tout de même pas s'encalminer dans cet appauvrissement et cet assèchement. Donc, allons-y, ouvrons les portes. L'ennui, c'est que vous avez une dissymétrie politique éclatante. D'un côté, cette réforme diplomatique s'inscrit dans un vent de réforme volontariste. De l'autre côté, Isaias Afewerki, le despote érythréen, qui est sans doute un des plus anachroniques de la planète aujourd'hui, n'a aucune envie d'ouvrir autre chose que ses frontières et son commerce. Il sait très bien, c'est la nature de ces régimes, qu'ils ne survivent jamais à leurs réformes. Donc il faut voir si à un moment donné, ces plaques tectoniques vont pouvoir continuer de bouger de concert.
Si ce rapprochement a eu lieu, c'est aussi parce qu'il a été considérablement soutenu par un certain nombre de pays, et je pense en particulier aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite.
Et d'ailleurs, j'inverserai même l'ordre des facteurs. Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, et ensuite, effectivement, le parrainage bienveillant
Quel
des Américains.
Quel intérêt ils y trouvent?
L'intérêt, la stabilisation de cette corne de l'Afrique, et c'est aussi la raison pour laquelle Djibouti est à ce point courtisé, alors que là encore, son président Ismaïl Omar Gale est tout sauf un parangon de vertu démocratique, parce que vous y avez des bases chinoises, américaines, françaises, historiques, etc. Donc, tout ce qui peut concourir à la stabilisation de ce balcon vers l'Est est évidemment considéré comme propice.
Vous rappelez malgré tout, Vincent Hugeux, qu'il y a des menaces qui pèsent sur le pays, surtout sur Abiy Ahmed lui-même, puisqu'il a échappé, vous le dites, à un attentat à la grenade, c'était en juin 2018. Quelques semaines plus tard, c'est carrément un commando armé qui débarque dans ses bureaux. Concrètement, c'est quoi le niveau de la menace aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait tout simplement être éliminé, Abiy Ahmed, c'est ça?
Et qui lui en veut? Dans le spectre des risques, on ne peut évidemment pas exclure cette hypothèse, puisqu'il semble que celui qui avait ourdi le fameux attentat à la grenade lors d'un méga meeting au cœur de Addis, la capitale, est un ancien membre des services de renseignement que lui essaye de normaliser. Et c'est une manière d'amorcer la réponse à la deuxième partie de la question. Qui lui en veut? Tous ceux qui ont énormément à perdre à la dissolution de cet ordre ancien. Et on les trouve effectivement dans l'armée. Il a par exemple neutralisé un ancien chef d'état-major qu'on croyait absolument indéboulonnable. Il a réussi à réduire au silence un gouverneur d'état qui était en fait une sorte de bout de feu ethnique, etc. Donc évidemment, il va à l'encontre de beaucoup d'intérêts. Et je parlais tout à l'heure du démantèlement de ce conglomérat militaro-industriel METEC. Il est évident que ceux qui vont passer du fauteuil présidentiel à la cabane, au barreau de la prison, ont beaucoup de raisons de s'inquiéter.
Est-ce que c'est un risque seulement pour le pouvoir ou est-ce que ça va au-delà? On disait tout à l'heure qu'il y avait une forme de remise en cause de l'ethno-fédéralisme du pays. Quid des violences ethniques? Je vous cite. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à Addis Abeba et dans ses faubourgs, pas une semaine ne s'écoule sans que des foyers de tension éclosent ou se ravivent. Ça et là, il y a du nettoyage ethnique dans l'air.
Oui. Un chiffre, un seul, 3 millions de déplacés internes dans la séquence des 18 mois écoulés. Alors, vous allez me dire qu'il y a une histoire de l'exil intérieur en Éthiopie, certes, mais le phénomène, de l'aveu de tous les experts éthiopiens ou pas que j'ai pu consulter sur place ou ailleurs, c'est que ce péril-là n'a jamais été aussi aigu, aussi incandescent qu'aujourd'hui.
Donc des raisons de se réjouir, mais aussi des raisons de s'inquiéter. Merci infiniment Vincent Hugeux d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes grand reporter pour l'Express. On peut vous relire donc sur ce reportage sur l'Éthiopie. Et puis vous êtes également auteur de Kadhafi, qui était paru chez Perrin en 2017. Merci infiniment.
Yet no yemit nor you yal she bet bota. Meninya hai yal no yan cheat zita. zotrita yinyalme la kuminash bene fasi jawasi peten zefrush bete zitat kurefes jesaish.
Allez, on va tourner cette page éthiopienne pour se diriger du côté de l'Algérie. Algérie, le régime se fissure-t-il? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le 21 février dernier, le pouvoir algérien annonçait l'intention d'Abdelaziz Bouteflika de se représenter pour un cinquième mandat. Dès le lendemain, des manifestations s'organisaient dans tout le pays pour s'y opposer. Et depuis, malgré les reculs et les propositions, la mobilisation se poursuit, malgré aussi les premiers signes d'effritement du régime.
Une fois qu'on est debout, on est là, on fait attention à tous les petits détails. Genre maintenant, même si ils ont enlevé M. Bouteflika, on est toujours là à manifester. Pourquoi ? Parce que nous, on demandait au système. On demandait au système de partir. Et voilà, on n'est pas devenu aussi naïf qu'on l'était. Parce qu'il faut le dire, on était naïf.
Les enfants du Front de Libération Nationale sont profondément solidaires du mouvement populaire. Ils défendent en toute sincérité les buts et les chemins tracés par ce mouvement.
Voilà, on entendait à l'instant Mouad Bouchareb qui déclarait il y a deux jours que le FLN, le parti au pouvoir, soutient le mouvement populaire. On entendait également un témoignage d'un Algérois qui a été recueilli par Yacine Bouzard, qu'on remercie de France Culture. Pour parler de cette Algérie, Malik Haral et Slimane Zeghidour sont nos invités, ainsi que Majid Zerouki qui est notre partenaire du Monde chaque semaine. On va commencer avec vous Majid. On est aujourd'hui à l'acte 5, on parle de l'acte 18 avec les Gilets jaunes, c'est l'acte 5 avec l'Algérie. De cette révolte, si on fait un peu le bilan, on a eu plusieurs vagues de réactions de la part du pouvoir. Il y a eu d'abord l'idée d'un mandat écourté. Finalement, on a lâché sur la perspective de ce cinquième mandat, mais tout en annonçant laisser Bouteflika en place pour la transition. On a remanié le gouvernement, on a envisagé une nouvelle réforme constitutionnelle, une conférence nationale inclusive, mais très clairement, on voit bien là sur le terrain que ces solutions ne conviennent pas et que les manifestants aujourd'hui sont déterminés à faire tomber ce régime.
Ce qui est sûr, c'est que pour les Algériens, le compte n'y est pas. Nous en sommes ce vendredi, on boucle un mois d'une révolte inédite, quand même, massive, contre, au départ, le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, puis maintenant contre son quatrième mandat prolongé, dans les faits, et que les réponses du pouvoir ont amené la rue à des revendications de plus en plus tranchées, comme on a entendu le jeune homme dans votre sujet. Les manifestants ne réclament plus le départ d'Abdelaziz Bouteflika, mais le départ du système lui-même. Aujourd'hui. Pour rappel, vous avez rappelé, Abdelaziz Bouteflika a donc renoncé à se présenter et il promet, tout en se maintenant au pouvoir, une élection démocratique suite à une transition qu'il conduirait donc lui-même et une réécriture de la Constitution après convocation d'une conférence nationale au contour extrêmement flou, ce qui a été vite été interprété comme la volonté de garder la main sur le processus politique. Depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de nouvelle offre politique du pouvoir, mais les positions ne sont pas l'air si tranchées, comme vous l'avez dit, notamment avec ces déclarations des partis présidentiels. Le porte-parole du RND, le parti du Premier ministre débarqué le 11 mars, Ouyahia, a ainsi déclaré que l'Algérie avait été gouvernée, je cite, par des forces anticonstitutionnelles depuis 6 ans, rien que ça. Et le FLN, donc, désormais, apporte son soutien aux manifestants, alors que les manifestants manifestent contre lui. Sachant qu'on a aussi des secteurs sensibles, comme je pense à la magistrature, qui sont quand même acquis au système, qui basculent. Et l'armée, qui commence peut-être à s'impatienter, ou en tout cas qui a déclaré par la voix de son chef d'état-major, Gaït Salah, qu'il faudrait trouver des solutions rapidement. Donc, revirement, manœuvre tactique, volonté de gagner du temps. La question est ouverte.
On va poser justement la question à nos deux invités, Malik Haral et Slimane Zeghidour, qui sont là avec nous pour nous éclairer. Mais peut-être, on va regarder justement les signes d'effritement, mais une question un peu générale pour commencer, Malik Haral. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le régime a pris la mesure, a conscience de ce qui est en train de se passer en Algérie, et est-ce qu'il a véritablement l'intention, après on verra s'il a la capacité de le faire, mais de se réformer ?
Écoutez, c'est une question qui est difficile et qui est difficile parce que le régime n'est pas un cerveau ou une personne en réalité. Le régime est tout ce qui est en train de se passer actuellement lorsque, quand même très très tôt dans le mouvement, en fait, pratiquement dès le début, il y a de la contestation à la base du FLN. Ce FLN, c'est malgré tout, d'une certaine façon, le régime. Lorsque les enfants de Choueda, les enfants de martyrs de la guerre, l'association qui fait partie de ce qu'on appelle la famille révolutionnaire, il y a déjà quelques semaines, conteste le cinquième mandat et le maintien au pouvoir de Bouteflika, c'est aussi quand même un élément du régime. Donc là, il faudrait réussir à déterminer aujourd'hui qui décide pour savoir ce que c'est le cerveau du système ou ce qui reste du cerveau du système. Moi, je suis pas en mesure de vous dire ça actuellement.
Slimane Zeghidour, a priori, dans ce cerveau, il y a aussi le FLN, donc le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Et alors au début, Slimane Zeghidour, il était dans un soutien quasi total à Bouteflika. Et puis cette semaine, c'est vrai qu'il y a eu un petit changement de ton. Il y a eu une réunion de la direction du parti qui s'est faite à huis clos, évidemment, et à l'issue de laquelle le parti a déclaré son soutien au mouvement populaire. Son chef, qu'on entendait, Moueb Bouchareb, a expliqué que le gouvernement n'était pas entre les mains du parti, tentant au fond de dissocier précisément le régime et sa formation politique. Comment est-ce que vous interprétez ça, pardon, et est-ce qu'il faut y voir le premier signe d'un effritement de ce pouvoir?
Bon, alors le premier effritement, c'est le fait que le peuple, depuis maintenant un mois, rejette le régime. Et quand je dis le rejette, les manifestants ne demandent pas à ce que le régime se réforme ou s'améliore ou leur propose un calendrier pour sortir le pays de la crise. Ils ne demandent pas des emplois. Il lui demande tout simplement de faire ses valises et de partir. Et c'est là où on découvre une des grandes anomalies de l'affaire algérienne, c'est que ça dure depuis un mois. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un début de tractation entre des représentants patentés du pouvoir et la rue. Chaque fois, les réponses du pouvoir par rapport aux demandes de la rue sont dites à la cantonade. Sont dites à Berlin, sont dites à Moscou, sont dites dans des conférences de presse à des médias étrangers.
Mais là, quand le chef du parti dit « le parti n'est pas le régime », est-ce qu'il faut y voir un début d'effritement, de dislocation du pouvoir algérien?
Mais la dislocation, on y est, c'est une forteresse vide. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise met à nu des singularités algériennes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un parti? Il n'y a pas de parti en Algérie dans le sens moderne du terme. Je m'explique. Par exemple, le FLN, il n'a pas, une université d'été. Ses représentants n'ont pas un blog. On n'a pas une biographie de chacun de ses responsables. Même les Algériens journalistes sont incapables de présenter la biographie complète d'un haut responsable du FLN. Donc on a affaire à des gens, à un parti qui est une coquille vide, il y a des représentants dans les que les gens ne connaissent pas, même les parlementaires, je parle devant Malika Rahal, même les parlementaires, vous savez qu'un parlementaire algérien lambda n'a pas d'attaché parlementaire, n'a pas de permanence, n'a pas de blog, n'a aucun endroit où ses administrés peuvent le retrouver. Et du coup, ses administrés l'ignorent et lui les méconnaît.
Malika Rahal, ensuite Majid Zerouki, puis il va falloir qu'on parle de l'armée algérienne qui va évidemment, comme très souvent dans ce genre de crise, probablement jouer le rôle d'arbitre. Malika Rahal.
Peut-être qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire de ce que c'est que ce Front de Libération Nationale, que je le redis, je le dis souvent, on le connaît vraiment mal, on connaît mal son état aujourd'hui, et les gens qui en sont des militants et les gens qui en sont des adhérents, parce que je pense qu'il y a, c'est pas complètement une coquille vide. Mais c'est un parti qui a été lié au pouvoir depuis l'indépendance. Il y a longtemps eu un régime de parti unique et en même temps le FLN n'était pas l'État dans tout ce temps. Depuis plusieurs années, on est dans un système où on a une coalition présidentielle dont le FLN n'est que un des éléments. Par contre, on a vu des changements très récents à la fin de l'année 2018. On a vu vraiment une tentative forte pour de la part du groupe présidentiel de Bouteflika ou du fantôme de Bouteflika ou du voilà le concept de Bouteflika pour prendre davantage de pouvoir sur le parti, notamment en nommant celui qui est aujourd'hui le secrétaire général du parti, Boucherep. Et cette nomination était déjà un problème pour un certain nombre de personnes à l'intérieur du parti. Et ensuite, la nomination de Bouteflika comme candidat du parti a fait déjà l'objet de contestations. On a déjà dit, il y a eu des discussions pour savoir est-ce qu'elle a été faite selon les règles ou pas. Est-ce que le FLN ne s'est pas vu imposer cette candidature? Donc oui, les signes de fracture, ils existent depuis un moment déjà. Mais il faut se garder de trop de simplifications et de dire le FLN, c'est le système. Effectivement, il fait l'objet de beaucoup de revendications, y compris pour sa suppression complète de la part des manifestants. Mais c'est intéressant de voir en fait qu'est-ce que c'est que ce FLN.
Oui, alors il y a le FLN et puis il y a aussi l'armée. Je le disais, Majid Zerouki à la tête, on y trouve Gaïd Salah. Et d'ailleurs, vous avez proposé un portrait extrêmement intéressant dans les colonnes du Monde de cet homme-là. Alors, je ne sais pas si c'est lui aujourd'hui qui tient au fond les rênes du pouvoir. C'est difficile à dire, mais là aussi, peut-être qu'on a vu une forme de prise de distance vis-à-vis du. Je vais reprendre votre formule du concept Bouteflika, même pas du système Bouteflika, du concept Bouteflika. Il avait d'abord dénoncé les manifestations et puis récemment, il a exprimé sa confiance absolue en la sagesse du peuple. Est-ce que là aussi, on peut y voir des lignes qui bougent, Slimane Zeghidour? Et puis ensuite, je vous donne la parole, Majid. Slimane Zeghidour.
Alors, la singularité de l'armée algérienne, c'est qu'elle est antérieure à l'État. Et donc, c'est elle qui a porté sur les fonds baptismaux l'État, donc les. Et elle a contribué à l'élaboration de cet État. Par exemple, elle a fait un travail colossal dans le bornage des frontières, dans la protection des frontières. Elle a jugulé le terrorisme. Mais à part cela, sa singularité, c'est que, à tort ou à raison, elle est perçue comme la faiseuse de roi en Algérie. Et ça, pour une armée moderne, c'est quelque chose qui est une anomalie. Parce qu'une armée moderne, c'est une armée qui est là pour élaborer une doctrine de la sécurité nationale, qui met sur pied des schémas stratégiques sur lesquels elle travaille. Et elle est un corps de bataille au service d'une vision, d'une politique déterminée par les civils. On n'a rien de tel, en apparence, en Algérie. Du coup, cette armée, elle a pu réagir avec l'aval de gros pans de la société quand il s'est agi de combattre le terrorisme, mais face à des civils désarmés, non seulement ostentatoirement pacifistes, mais en plus qui crient « Armée, peuple, on est tous frères ». Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas défendre le régime contre la société, donc elle est réduite à faire des déclarations à travers son chef d'état-major qui est vice-ministre de la Défense, car le ministre de la Défense, c'est le président Bouteflika. Donc elle redouble de rhétorique pour dire qu'elle est une armée du peuple, en osmose avec le peuple, mais tout ça à la cantonade. Et tout ça montre le grand embarras dans lequel elle doit se trouver, ou peut-être des arbitrages difficiles à mettre en œuvre qui doivent l'agiter.
Mathieu Zerouki.
Et la question qu'on a envie de se poser, du coup, c'est est-il concevable donc que ce concept Bouteflika puisse se maintenir encore longtemps si la contestation continue, avec une base sociale qui apparaît de plus en plus réduite ou fracturée, et avec une armée qui rechigne à se poser en arbitre, à moins qu'elle y soit obligée, quoi.
Ce sera un moment de vérité pour nous tous. Parce qu'en fait, ce qu'il y a d'inédit dans cette affaire, c'est que le régime, pour la première fois, il est contesté pacifiquement. Vous connaissez l'Algérie. Jusqu'ici, quand il y avait une protestation, c'est l'émeute. L'émeute, à cause de la disparition des réseaux intermédiaires de négociation, l'émeute était devenue le seul mode de dialogue entre le régime et la population. Par exemple, vous avez une ville, il n'y a pas d'électricité, les gens bloquent les autoroutes, manifestent, saccagent deux ou trois mairies.
On envoie la police.
Là, non, c'est le préfet qui arrive et qui dit « Ok, je débloque des fonds et je remets l'électricité » ou l'eau ou autre chose. » Ça, la société était outillée pour ce type de rapport de force frontal. Et le régime est outillé en mettant le chéquier. Or là, c'est quelque chose de totalement inédit. Les gens ne demandent pas d'électricité, ils ne demandent pas de boulot.
Ils demandent un changement de régime.
Le départ.
Mais...
Et donc le régime n'a jamais eu à faire face aussi massivement une telle demande.
Mais Malik Haral, j'aimerais comprendre ce qu'il demande exactement. Parce qu'il demande le départ, très bien. Mais on peut très bien imaginer que Bouteflika effectivement s'en aille, mais que le régime et le concept qui va avec finalement restent. Qu'est-ce qu'il demande? Ça serait quoi une proposition aujourd'hui acceptable de transition politique pour les manifestants?
En fait, c'est ça qui est à la fois difficile à dire et qui a, à mon avis, une volonté en fait du mouvement populaire. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui est en train de se passer. D'abord, on a vu une évolution des mots d'ordre. Hein. On est parti de non au cinquième mandat et puis quand il n'y a plus cette possibilité du cinquième mandat, on est arrivé à non au quatrième mandat prolongé. Là, le slogan depuis quelques jours, ou la petite phrase qui est aussi un hashtag sur Twitter, c'est Tnahaou Ga, c'est-à-dire dégager tous. Et alors du coup la question c'est ok, ça veut dire quoi tous?
Il va falloir quand même qu'on en mette en place pour assurer.
C'est quoi la limite de tous? Mais en même temps, une volonté assez nette de ne pas s'organiser, de ne pas se donner de représentants à cette étape et de continuer à demeurer aussi méfiant à l'égard d'autres possibles porte-parole ou d'autres possibles figures qui pourraient émerger, qu'on est méfiant à l'égard du régime. C'est-à-dire que les chefs de parti, les partis un peu anciens, les partis un peu usés, des gens qu'on voyait déjà dans les années 90, le retour dans certaines réunions d'anciens responsables du Front islamique du salut qui étaient déjà là dans les années 90, tout ça, ça a l'air de laisser la rue complètement froide, sinon complètement hostile. Et on dirait qu'on a deux dynamiques qui pour le moment ne se rejoignent pas du tout, qui sont celles de ces discussions, rencontres dans les hôtels, tentatives pour essayer de trouver des idées, et ce qui se passe dans la rue, qui est vraiment l'émanation plutôt d'une dynamique ancienne qui s'est développée au fil des dernières années, celle d'une, alors on dit souvent une société civile, un mouvement associatif, de l'auto-organisation, des volontariats, des jeunes qui font eux-mêmes et qu'on voit dans ces actions de nettoyage des rues, de discipline dans les manifestations, qui n'est pas au stade où elle a envie d'être organisée politiquement et de répondre à l'injonction qu'on lui fait de se donner des représentants dont elle ne serait pas contente.
Slimane Zeghidour, il y a évidemment une question qu'on n'a pas encore abordée mais qui est absolument essentielle, c'est celle du retour possible politique des islamistes. On se souvient comment évidemment la victoire aux élections de 91 du Front islamique du salut avait plongé le pays dans un cycle de violence. Mettons sur la table l'hypothèse qu'effectivement transition politique il y a. Est-ce qu'elle pourrait aboutir à un retour politique des islamistes?
Alors, les islamistes, il y a déjà des partis islamistes qui sont au Parlement.
Le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, il y a le Front de la Justice et du Développement, il y en a plusieurs.
Voilà. Alors, et ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième constat qu'il faut faire, c'est que la première vague des islamistes en 90 est arrivée face à une société où la religiosité, pour ne pas dire la bigoterie, n'était pas encore un élément dominant. Or, depuis lors, les islamistes ont été défaits militairement, domestiqués politiquement, mais la société a été totalement bouffée par une religiosité, une remontée des superstitions, des pratiques magiques, maraboutiques. Et le gouvernement lui-même de Bouteflika a réhabilité ce qu'on appelle les zaouias, c'est-à-dire les confréries religieuses, sur lesquelles la colonisation a tablé pour se donner une légitimité islamique, que le régime socialisant de Boumediene a voué aux gémonies comme des reliquats coloniaux, eh bien ces zaouias ont été réhabilités.
Vous êtes en train de nous dire qu'en fait le régime Bouteflika a rassemblé les conditions d'un retour des islamistes?
Mais il n'y a pas besoin de retour sur le plan mental, sur le plan culturel de la religiosité.
Ils sont là, mais du retour politique.
Alors, du retour politique, je pense qu'ils ont été totalement disqualifiés. D'abord, par la période terroriste, par le fait qu'ils n'ont pas de personnalité charismatique, et par réfraction, par les horreurs de Daesh, qui ont totalement délégitimé l'option islamiste.
Malik Haral.
Oui, alors moi je suis toujours comme historienne à la recherche de sources pour mesurer ça plutôt que que de fantasmes que certains expriment dans la société, mais par exemple, on voit qu'il y a une présence sur Internet de quelqu'un comme Ali Belhadj, l'ancien dirigeant du Front islamique du Salut. Il a une chaîne YouTube, il a un compte Facebook. Il a gagné un peu en notoriété les dernières semaines, mais enfin, à l'heure qu'il est, c'est pas du tout un phénomène spectaculaire. On a effectivement des partis islamistes qui sont des partis qui, dans leur discours d'aujourd'hui, ne mettent pas la religiosité en avant, mais mettent d'autres types de discours en avant. D'une certaine façon, moi, je suis presque plus inquiète de la possibilité d'une entrée en force d'une idéologie néolibérale qui a l'air d'être quand même portée assez largement par les intellectuels qui prennent la parole, notamment les économistes, et qui n'est pas du tout contestée. J'allais dire presque ça, c'est un phénomène plus spectaculaire et moins étudié, moins visible.
Donc pas de risque prégnant, en tout cas pas dans l'immédiat, vous êtes d'accord.
Selon ces sources.
Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour, évidemment. On va le diffuser sur les réseaux sociaux et sur le site de France Culture. C'est notre bulle Cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Et aujourd'hui, c'est Marguerite Caton qui nous présente ce dessin. Bonjour Marguerite.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Un dessin de Vado aujourd'hui.
Vous avez l'œil, vous avez reconnu le petit chat vert de Vado, sa mascotte qui ressemble un peu au galaxien du Scrum Moustache. Ça nous rappelle que Vado dessine des bandes dessinées en plus de ses illustrations dans la presse belge. 36 ans déjà de collaboration avec l'hebdomadaire Le Vif où a été publié le dessin. 36 ans, c'est long. C'est plus long que les 20 ans tout juste qui vont couronner les 4 mandats présidentiels d'Abdelaziz Bouteflika. C'est quand même moins long que les 57 années qui nous séparent de son entrée en politique. Mais aujourd'hui, on repart de zéro. C'est une aube nouvelle qui baigne le peuple algérien, une aurore rosée qui illumine la foule. Le petit chat vert, du haut de son balcon, contemple le spectacle. À ses côtés, un vieil homme assis sur un fauteuil roulant, en digne pyjama rayé, regarde aussi. On se croirait au Vatican, si au lieu des acclamations, ce n'était pas des insultes que crie la foule. « Va-t'en, dehors, dégage » dit-on sur les pancartes. « Casse-toi, fossile !» Les bras grands ouverts en un V victorieux, brandissant ses béquilles comme deux sceptres glorieux. Le vieil homme bégaye pourtant. « Je vous ai compris. » Ça lui a plutôt bien réussi au général de Gaulle le 4 juin 58 quand il a adressé les mêmes mots à la foule algéroise rassemblée au pied de la résidence du gouverneur. Il a promis alors un référendum, l'autodétermination, une nouvelle constitution et il est resté ensuite 10 années de plus au pouvoir. Bouteflika et ses proches seraient bien bêtes de ne pas jouer à leur tour la scène du balcon. Un dernier mot, Florian, pour terminer sur ceux qui comprennent, ceux qui sont compris ou ceux qui sont pris pour des cons. Il y a une chose que De Gaulle avait bien saisie et dont le gouvernement algérien semble prendre conscience doucement. C'est la puissance irrépressible d'un peuple qui veut sa liberté. En 55, à cette date Bouteflika n'avait que 18 ans, De Gaulle se confiait en privé. Nous sommes en présence d'un mouvement général dans le monde, d'une vague qui emporte tous les peuples vers l'émancipation. Il y a des imbéciles qui ne veulent pas le comprendre, ce n'est pas la peine de leur en parler.
Je vous ai compris !
Réaction peut-être de nos invités ici, Malika Rahal, Slimane Zeghidour, sur ce dessin. Puis il va falloir évidemment qu'on évoque la question délicate de la position française vis-à-vis de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Algérie. Mais réaction libre d'abord, qui veut y aller ? Allez, Malika Rahal.
Bah, écoutez, comme historienne.
On diffuse le dessin sur les réseaux sociaux.
Hein, oui. Alors, comme historienne, moi, ce qui me frappe, c'est le raccourci entre l'histoire de la guerre d'Algérie ou de la guerre d'indépendance et ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est quand même toujours une difficulté et un problème, le fait que du coup ça fait l'impasse sur le fait que le pays a une histoire depuis son indépendance, qu'il n'est pas que cette guerre d'Algérie, qu'il n'est pas que son rapport à De Gaulle, et que cette histoire-là, elle s'est sédimentée et on la retrouve constamment dans les mouvements, dans les rues, dans les slogans et dans les formes d'action que prennent les gens. Il y a de l'histoire et que je trouve que c'est dommage de l'effacer.
Slimane Zeghidour.
Oui, avec le recul par rapport au fameux mot de De Gaulle, je vous ai compris, ça ne veut pas dire que je vais faire droit à votre demande.
Absolument.
Ça n'engage absolument à rien. Mais juste l'obstination du régime à rester en place me rappelle un vieil adage de la cabinet des bâbords. Mais vraiment, c'est un adage immémorial qui dit ceci. Il met en scène un homme, un époux, un fellah qui dit à sa femme, Il lui dit, tu es répudié. Et elle lui répond, attends, je n'ai pas encore donné à manger aux poules, je n'ai pas fait traire les vaches. Et lui, il répète, tu es répudié. Mais non, je n'ai pas encore fagoté, je n'ai pas encore lavé le linge, etc. On est un peu dans cette attitude, on a l'impression que le régime n'arrive pas à se faire à l'idée que la société veuille vivre en dehors de lui.
Mathilde Zerouki.
Alors moi, ce qui marque, c'est les drapeaux. Je ne sais pas si les invités seront d'accord avec moi. J'ai l'impression, moi, ce qui m'a marqué comme dans les images des manifestations, c'est cette réappropriation, cette appropriation du drapeau algérien.
Des symboles nationaux de façon générale.
Exactement.
Le drapeau, l'hymne national.
De la part d'un peuple qui a parfois été présenté comme un champion de l'autodénigrement et qui, là, fait quand même une démonstration de patriotisme assez incroyable.
Eh bien, écoutez, il y a vraiment un effet d'écho de ce qui se passe aujourd'hui avec les festivités de l'indépendance de 1962 et avec l'omniprésence du drapeau. Ça fait vraiment partie de ça. Non seulement c'est visible par l'ampleur considérable sur le territoire des manifestations, le nombre, le caractère festif, la danse, le corps, enfin tout ça, on retrouve des éléments des festivités de 62, mais c'est visible aussi parce que les gens, en fait, y font allusion. Et dans cette fierté du drapeau, deux choses. C'est vrai qu'il y a une réponse à un dénigrement de l'extérieur ou un dénigrement d'une partie de l'intérieur. Je repense à des gens qui doivent vraiment regretter ce qu'ils ont dit il y a quelques semaines. Par exemple, Amin Zawi qui parlait de la bédouinisation de façon très méprisante. La bédouinisation du peuple à l'heure actuelle, et ben ça sonne du coup curieusement inadéquat, enfin, violemment inadéquat par rapport à ce qui est en train de se passer. Et une chose qui n'apparaît pas dans le dessin, c'est le fait que ce drapeau algérien n'est pas en général seul. Il est très souvent accompagné du drapeau amazir. Et sans qu'il y ait de conflit entre les deux, parce que ce qui est en train de se passer est vraiment en train de balayer ce qu'il y a pu y avoir comme tension régionale dans les dernières années. Très souvent aussi accompagné du drapeau palestinien, dont les gens disent c'est un peuple qui a trois drapeaux. Un drapeau algérien, un drapeau berbère et un drapeau palestinien.
Slimane Zeghidour, ce que nous rappelle aussi ce dessin, si on l'avait oublié, c'est évidemment les liens très particuliers avec la France. Pour le moment, on voit qu'on fait très attention de ne pas prendre position. Et en même temps, ne pas prendre position, c'est aussi d'une certaine manière soutenir le régime. Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le débat de début de semaine entre le président de la République et les intellectuels qui avaient été diffusés sur France Culture. Mais il y a eu notamment une intervention de Benjamin Stora qui disait... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit... Alors, le président a répondu, moi, dans ma situation, je ne peux rien faire, mais qu'est-ce que doit faire la France? Comment est-ce qu'elle peut se positionner dans ce conflit?
Écoutez, quand la France bouge vis-à-vis de l'Algérie, il n'y a que des coups à prendre, de toute façon.
Ou à donner.
Ou à donner, mais surtout à prendre. Psychologiquement, évidemment, et par à titre et de façon rhétorique, parce que... les postures patriotiques et francophobes en Algérie sont beaucoup plus équivoques qu'il n'y paraît. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la France, pas seulement à cause de l'histoire de 132 ans de concubinage plus ou moins bancal, c'est que du point de vue humain, je dirais presque matrimonial, la France est le pays le plus proche de l'Algérie. Tenez, il y a plus d'Algériens dans la seule agglomération marseillaise que d'Algériens dans toutes les capitales arabes réunies. Le pays avec lequel il y a plus de conjoints français, plus de couples mixtes franco-algériens, que de couples mixtes des Algériens avec la totalité du monde.
Mais, La France ne doit rien dire.
Mais c'est, alors,
compte tenu de ça.
Alors, il y a les déclarations publiques. Et il y a les tractations quotidiennes, les rencontres, les échanges informels, plus ou moins discrets. Il y a un dialogue, il y a un flux permanent d'échanges entre les deux États. Maintenant, les déclarations publiques, elles, sont des déclarations de circonstances, soit pour la consommation, souvent d'ailleurs pour la consommation interne. Et d'ailleurs, quand le président Macron dit... comme l'avait dit Jospin à un moment donné quand il était Premier ministre, il avait dit « Nous sommes contraints quant à notre expression sur l'Algérie ». Je le cite littéralement. Dire « Nous sommes contraints », c'est déjà dire beaucoup plus que dire que nous sommes contraints.
Majid Zerouki.
Oui, mais si je peux me permettre, la première déclaration, celle de Le Drian, a pu paraître quand même problématique aux yeux des Algériens, puisqu'il a commencé par afficher son soutien au président Bouteflika. Ce qui d'ailleurs a amené dans les manifestations qui ont suivi la semaine d'après une contestation de la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie, et ça a été présenté comme un soutien à l'Égypte.
Absolument. Mais avant-hier, à l'Assemblée, il a fait une autre déclaration qui semblait basculer du côté plutôt de la rue. Et tout cela est très, très inconfortable.
En tout cas, extrêmement dangereux. Il a dit, je cite, « L'Algérie est un pays souverain, donc la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Elle n'a pas à le faire et ne cherche pas à le faire. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de décider souverainement de son avenir. »
Mais elle a un souhait.
Oui, mais en même temps, on a, par exemple, le gouvernement algérien ou les élites algériennes disent pas d'intervention, pas d'ingérence ou d'immixtion étrangère, mais vous avez des ministres qui vont à Moscou, qui vont à Berlin, à Pékin,
à Rome,
comme s'ils allaient, ou à Rome, pour solliciter justement un regard extérieur.
Malik Haral.
Oui, on a été jusqu'à il y a peu dans une situation où c'était ça le point d'accord entre le gouvernement et sa politique étrangère et la foule, ce désir absolu de non-intervention étrangère. Effectivement, depuis que le ministre des Affaires étrangères, Lamamra, a commencé une tournée, du coup, il n'y a plus que la foule qui est la porteuse de ce désir quand même très très fort, qu'il n'y ait pas de parole, qu'il n'y ait pas d'ingérence, que ce soit une affaire qui se règle en interne.
Et il l'a obtenu de Moscou, on l'imagine assez facilement, de Rome également, de Berlin.
Du coup, il a obtenu une intervention de Lavrov qui allait plutôt dans le sens de la non-intervention, mais qui du coup
de Berlin. Alors, l'Allemagne.
De Berlin, à l'heure actuelle, on ne voit pas ce qui est ressorti de ces rencontres. Mais pour revenir juste sur la question de la France et de sa position, alors là, vraiment, comme historienne, c'est absolument frappant. Si vous avez été l'ancienne puissance coloniale d'un pays, effectivement, malgré des liens forts et malgré des populations croisées ou de l'immigration, il y a probablement une contrainte très forte sur ce qui est dit. Si vous êtes également un pays dont les interventions au Maghreb et dans le reste des pays arabes ont été ce qu'elles ont été dans les dernières années, notamment en Libye, de façon militaire, mais aussi de façon diplomatique au moment de 2011 et de la Tunisie, probablement il faut être extrêmement prudent et rejoindre là ce qu'exige la rue algérienne, qui est un règlement en interne de cette situation.
Slimane Zeghidour, en guise de conclusion, on arrive au terme de l'émission, sur Berlin peut-être. Réaction de Berlin à cette visite du vice-premier ministre algérien.
Alors, Merkel n'a pas pu recevoir donc le
ministre ou pas voulu.
Algérien.
Pas pu ou pas voulu?
Ça, c'est la question. Mais encore une fois, c'est la vraie question, c'est pourquoi sont-ils allés dans ces capitales? Est-ce que c'est pour conforter ce vieux... C'est cette croyance selon laquelle les élites du tiers-monde cherchent d'abord à être légitimées par les pays, par les grandes puissances, avant de chercher l'assentiment de leur peuple. Mais ils se sont adressés à des interlocuteurs étrangers avant même de s'adresser directement les yeux dans les yeux à leur propre population.
Merci beaucoup à nos invités. Malik Haral, je rappelle que vous êtes historienne chargée de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et je rappellerai également que vous aviez écrit aux belles lettres Ali Boumendjel, une affaire française, une histoire algérienne. Merci infiniment Slimane Zeghidour. Sors, la route t'attend, mon village en Kabylie. C'était paru aux Arènes. Un grand merci également à vous, Majid Zerouki, de nous avoir accompagnés. Notre partenaire du monde, comme chaque vendredi, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
On parlait de cette visite à Rome à l'instant, mais il y en a un autre qui est du côté de Rome, c'est Xi Jinping, le président chinois. Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Et à quoi joue le gouvernement populiste italien avec les Chinois justement?
L'initiative One Belt, One Road, une ceinture, une route, ce que nous appelons nous la nouvelle route de la soie, c'est un train que l'Italie ne peut pas se permettre de manquer. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Giovanni Tria. L'Italie sera, dès la fin de cette semaine, à l'occasion donc, vous le disiez, de la visite d'État du président Xi Jinping à Rome, le premier pays du G7 et le seul membre fondateur de l'Union, à ce jour, à s'embarquer dans ce colossal projet chinois. En échange de ce geste d'ouverture, Xi annoncera que la Chine va investir en Italie dans les infrastructures, les secteurs de l'énergie, de l'aéronautique et des télécommunications. Un mémorandum comportant 50 projets communs sino-italiens sera signé en grande pompe. Toutefois, Matteo Salvini, réticent, a obtenu que Huawei ne se voit pas attribuer l'équipement du pays en 5G. Alors on peut le comprendre, Giovanni Tria, l'Italie subit une croissance stagnante depuis des années. Depuis le deuxième semestre de l'an dernier, elle est même tombée en récession. Le taux d'emploi de la population en âge de travailler est la plus basse de l'OCDE, 60% contre près de 80% en Suède. La population vieillit, mais la coalition populiste au pouvoir n'a rien trouvé de plus urgent que d'abroger la réforme des retraites. Et depuis le 6 de ce mois, tous les Italiens dont le revenu est inférieur à 9 360 € annuels peuvent réclamer de l'État un revenu de citoyenneté d'un montant maximal de 780 €. Il y aurait 5 millions de bénéficiaires. Cela ne va pas améliorer les finances publiques de l'Italie. La dette publique qui est déjà de 130% du PIB, ce qui représente 38 000 € par Italien. Les banques italiennes sont fragiles. De nombreuses grandes entreprises italiennes, à commencer par Alitalia, ont des besoins urgents de recapitalisation. Quand on dirige un État au bord de la faillite, on est enclin aux tentations. Rome se jette sur l'argent que la Chine lui fait miroiter. À l'heure qu'il est, les échanges commerciaux entre l'Italie et la Chine sont modestes. Elle exporte pour 13 milliards d'euros, importe pour 29 milliards. La Chine a investi environ 14 milliards en Italie, mais l'Italie devrait y regarder à deux fois avant de se lancer dans l'aventure chinoise, prévient l'économiste Paola Subacchi. Pas tant du fait de la taille réciproque des deux économies, il faut savoir que celle de la Chine pèse plus de 6 fois celle de l'Italie, mais parce que la route de la soie, c'est une initiative opaque. À la différence d'autres initiatives chinoises comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ou la nouvelle banque de développement, elle n'est nullement dirigée dans une optique multilatérale. Et l'Italie n'est pas en position, comme elle le proclame, d'exiger de la Chine le respect des normes européennes. Chacun sait que l'économie chinoise n'est pas une économie capitaliste classique. De nombreuses entreprises chinoises censées privées sont au fait entre les mains de l'État. Et cela va introduire des facteurs de distorsion de concurrence qui vont se révéler désastreux pour les entreprises européennes.
Les Brits allemands et français sont furieux. Ils ont tenté in extremis de convaincre le gouvernement de Giuseppe Conte de ne pas s'engager aussi loin dans cette liaison avec la Chine.
Oui, ils ne lui diront pas, mais Macron et Merkel estiment que le haut niveau de corruption que connaît l'Italie, la fragilité de ses protections contre le cyberespionnage, la fragilité générale de son État inquiète ses partenaires européens. Tout destinait l'Italie à devenir le cheval de Troie de la Chine en Europe. Après la Grèce, qui leur a vendu le port du Pirée, après le Portugal, l'Italie annonce qu'elle va offrir des facilités aux Chinois dans le port de Trieste, porte d'accès au marché de l'Europe centrale. Il faut savoir que Pékin a déjà monté un groupe qui s'appelle 16+1, Chine plus pays d'Europe centrale et des Balkans, qui apparaît comme une structure rivale de l'Union européenne. Et bien voilà, l'Italie, c'est le nouveau pion de l'échiquier européen à basculer du côté du joueur chinois. Les nouveaux dirigeants populistes italiens se sont isolés au Conseil européen par leurs provocations répétées. Cela a conforté sans doute leur popularité chez eux, mais cela les a privés du soutien de leurs amis habituels, dont la France. En sautant à bord du train chinois, ils vont se couper encore davantage de l'UE. Donald Trump lui-même, dont l'administration comptait de nombreux amis, des populistes européens de droite, est également furieux. Après avoir longtemps hésité, tergiversé, les Européens semblaient pourtant sur le point d'adopter une position commune. La Commission a publié il y a quelques jours seulement un document d'orientation en 10 points, selon lequel la Chine, je cite, « ne doit plus être considérée comme un pays en développement, mais comme un rival systémique ». Mais Pékin a démontré sa capacité à jouer les pions européens les uns contre les autres. Et maintenant, la Chine inquiète l'Europe. Cette alliance sino-italienne est désastreuse pour l'image de l'Italie, mais elle n'est pas bonne non plus pour l'image que la Chine entend donner d'elle-même.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Me reste à prévenir aussi les auditeurs que l'esprit public d'Émilie Aubry sera enregistré demain au Théâtre de l'Odéon, ce sera en public à 14h. France, d'où vient la violence, écologie, une prise de conscience spectaculaire, voilà les thèmes de l'émission de demain avec Aurélie Filippetti, Christine Ockrent, Dominique Régnier et Thierry Pêche. Toutes les informations bien sûr à retrouver sur le site de France Culture.